Alors le passage que nous allons commenter se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 28, versets 1 à 14. En voici la lecture. Après avoir été sauvés, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous traitèrent avec une grande bienveillance. Comme la pluie s'était mise à tomber et qu'il faisait froid, ils allumèrent un grand feu autour duquel ils nous accueillirent tous. Paul ramassa un tas de branches pour le jeter dans le feu, mais un serpent en sortit à cause de la chaleur et s'accrocha à sa main. Quand les habitants de l'île virent le serpent suspendu à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres, « Cet homme est certainement un meurtrier, car la justice divine ne lui permet pas de vivre, bien qu'il ait échappé à la mer. » Mais Paul secoua le serpent dans le feu et ne ressentit aucun mal. Les autres s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup. Mais après avoir attendu longtemps et après avoir vu qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'idée et se mirent à dire qu'il était un dieu. Près de cet endroit se trouvait la propriété du principal personnage de l'île, qui s'appelait Publius. Celui-ci nous reçut aimablement et nous logea pendant 3 jours. Le père de Publius était au lit parce qu'il avait de la fièvre et la dysenterie. Paul alla le voir, pria, posa les mains sur lui et le guérit. Après cela, les autres malades de l'île vinrent aussi et furent guéris. Ils nous montrèrent toutes sortes de marques de respect, et au moment où nous embarquions, ils nous fournirent tout ce qui était nécessaire pour notre voyage. Au bout de 3 mois, nous sommes partis sur un bateau d'Alexandrie appelé les Dieux Jumeaux, qui avait passé l'hiver dans l'île. Nous sommes arrivés à la ville de Syracuse où nous sommes restés 3 jours. De là, nous avons suivi la côte pour atteindre Reggio. Le lendemain, le vent du sud se mit à souffler et nous sommes parvenus en 2 jours à Pouzzoles. Dans cette ville, nous avons trouvé des frères qui nous demandèrent de passer une semaine avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Alors, c'est un passage qui n'est pas très connu, qui n'est pas dans les liturgies de nos messes, malheureusement. Et je pense que peu de gens connaissent cet épisode de la vipère, en fait, qui a mordu Paul. Et Paul, qui est comme une actualisation ou comme la preuve flagrante de ce que Jésus dit en Marc chapitre 16, que des serpents auront bon nous mordre, ils ne feront aucun mal. Saviez-vous, effectivement, que Malte est mentionné dans la Bible? Alors ce passage va prendre des colorations tout à fait inédites si on prend ces fameuses interprétations spirituelles, qui sont interprétations allégoriques, centrées sur le Christ, tropologiques, centrées sur la vie intérieure, et anagogique centré sur les fins dernières ou le ciel. Alors, déjà pour situer le texte, il faut savoir que nous avons une tempête de 14 jours, et miraculeusement, au chapitre 27, grâce à l'aide de Dieu, Paul va réussir à raisonner les matelots et le commandant romain, et ils vont s'en sortir. Certes, le bateau sera perdu, mais tout le monde arrive sain et sauf, 276 personnes, sur l'île de Malte, d'où les premiers mots « après avoir été sauvés ». Donc, après avoir été sauvés, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Alors déjà, le mot « après avoir été sauvé » n'est pas innocent quand même, même si, avec le contexte, on comprend que c'est d'abord être sauvé du naufrage. Mais si on a un regard un peu plus spirituel, l'Église est appelée à faire ce chemin. Nous sommes sauvés. Le Christ nous a sauvés, c'est acquis, etc. Mais la conséquence de ce salut, c'est que nous sommes appelés à aller dans l'île de Malte. Et Malte veut dire barbare, c'est-à-dire les païens, les étrangers, tout ce qui est loin de Dieu. Donc, nous avons un devoir, c'est-à-dire que nos actes, nos œuvres ne sont pas là pour nous amener le salut, mais elles sont là en conséquence de notre salut. Nous sommes appelés gratuitement par amour de gratitude de Dieu, sachant que nous sommes sauvés gratuitement, eh bien nous sommes appelés à manifester un amour pur et gratuit, rempli de gratitude en allant sur l'île de Malte, chez les barbares. C'est nous-mêmes, à un titre personnel, plutôt que de juger, nous sommes appelés à aller vers les autres pour leur communiquer cet amour du Seigneur. Donc évangéliser est l'antidote du jugement que l'on peut porter sur les autres. Eh bien, l'Église est appelée à faire la même chose. Elle doit s'ouvrir. C'est ce qu'elle a fait au début, hein, dans les Actes des Apôtres même, c'est dit, cette ouverture du judaïsme au paganisme, aux gentils. Donc, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous traitèrent avec une grande bienveillance. Comme la pluie s'était mise à tomber et qu'il faisait froid, ils allumèrent un grand feu autour duquel ils nous accueillirent tous. Paul ramassa un tas de branches pour le jeter dans le feu. Mais un serpent en sortit à cause de la chaleur et s'accrocha à sa main. Quand les habitants de l'île virent le serpent suspendu à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres, « Cet homme est certainement un meurtrier, car la justice divine ne lui permet pas de vivre, bien qu'il ait échappé à la mer. » Mais Paul secoua le serpent dans le feu et ne ressentit aucun mal. Les autres s'attendaient à le voir enfler ou tomber tout à coup, mort, mais après avoir attendu longtemps et avoir vu qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'idée et se mirent à dire qu'il était un dieu. Alors ici, on ne peut pas s'empêcher de... l'interprétation, disons, littérale, effectivement, c'est de prendre au sérieux ce que dit Jésus dans Marc chapitre 16, que si nous évangélisons, si nous sommes disciples du Seigneur, eh bien, le serpent, le mal, n'a sur nous aucune prise, malgré des fois les apparences. C'est ce que Paul voit par lui-même. En sommes-nous convaincus? C'est autre chose. Et maintenant, si nous voyons avec des yeux de l'allégorie, Paul ici est une allégorie, bien sûr, du Christ, dans ce texte. Vous avez comme une image de l'incarnation. Vous avez Jésus, Philippiens chapitre 2, verset 6 à 11, ce Jésus qui est au ciel et qui va s'incarner dans cette espèce d'île de Malte où il pleut, où il fait froid, qui est notre humanité. Et le serpent, le diable, va le tenter, c'est la tentation au désert, la croix, il va bien s'enrouler. Nombre chapitre 21, repris en Jean chapitre 3, c'est celle de serpent d'airain. Donc ce serpent va essayer de mordre Jésus, chapitre 3 aussi de la Genèse, mordre au talon, la femme qui lui écrasera le pied, sa descendance à la femme qui écrasera le pied. Donc le serpent s'attaque à Jésus dans son incarnation. Et a priori, quand Jésus est à la croix, effectivement, c'est dans le livre de Deutéronome, maudit soit celui qui est pendu au bois. Effectivement, comme les gens de Malte, on a tendance à penser qu'il est frappé de la punition divine, que la croix est un échec. Eh bien non, parce que la croix justement va neutraliser ce serpent et son venin. Et on va finir petit à petit, c'est le cheminement de l'Église qui va faire comme ces gens de l'île de Malte, qui va penser que, enfin, l'humanité qui va penser que Jésus, c'est un échec. C'est aussi ce que vivent les disciples d'Emmaüs. Et puis ils voient ce serpent qui ne n'arrive pas à blesser le Christ, bien au contraire. Et alors ils se rendent compte que cet homme qui était a priori maudit est un dieu. En fait, nous, on va même aller plus loin, on va dire qu'il est Dieu. Voilà. Et on peut aussi voir que effectivement, dans l'esprit des gens de l'île de Malte, évidemment, un dieu, il y a encore du chemin. Mais disons, il y a une ouverture. C'est justement l'Église qui va passer de un Dieu à Dieu. Ce Jésus, qui n'est pas maudit, est Dieu. Et la croix, qui n'est pas un échec, est une victoire. C'est tout le sens de, si vous comparez, Jean chapitre 3, où il parle justement du serpent d'airain, nombre 21, où il montre que la malédiction même, le mal même, est vaincu par le mal, enfin, par la croix, si vous voulez. À la croix, le mal est cloué, le serpent est cloué. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce petit passage, c'est que les gens, attendent ce Seigneur. Et nous avons l'impression, bien sûr, ces publicains qui voient Jésus, etc., et qui lui font bon accueil. Et là, on va basculer sur l'autre interprétation, la vie quotidienne et la vie intérieure. Vous savez, Jésus nous dit lui-même de ne pas utiliser la force, comme les petits enfants. Il faut être comme des petits enfants. Et cette stratégie qui consiste à aller sur l'île de Malte, à aller auprès des barbares, à aller dans ce monde intérieur, à aller dans le pardon, à ne pas juger, à penser que les gens sont sauvables malgré les apparences, et que ce dont ils ont besoin, c'est de notre prière et de notre amour, ça paraît bien faible comme stratégie. Mais on se dit, mais quel doux rêveur. Et pourtant, c'est effectivement... comme ça que nous allons nous attaquer au serpent. Parce que par notre prière, c'est comme si nous parachutions ce Paul, ce Jésus, dans le cœur de chacun de nos frères, ou dans notre propre cœur. C'est comme si nous semions la vie, comme nous prions aussi pour nous-mêmes, hein, par rapport à tel ou tel problème qui nous habite intérieurement. Et le serpent est là, et bien sûr, il s'accroche. Et nous avons l'impression que, comme ces gens de Malte, bon, bah, que finalement, c'est peine perdue de prier, d'aimer, de nos efforts aussi par rapport à nous-mêmes, que Dieu est bien silencieux. Et puis, petit à petit, si nous persévérons, nous allons nous rendre compte que cette prière, cette petite graine, ce germe qu'est Jésus, hein, pour reprendre Zacharie chapitre 4, ou Isaïe, je crois, c'est chapitre 17 ou chapitre 33, pas Isaïe, Jérémie, où on parle du germe de David, eh bien, ce Jésus qui nous habite, ce Jésus qui habite nos frères, eh bien, c'est un Dieu, c'est Dieu. Il faut persévérer, il faut aller au-delà des apparences, et bien être persuadé que nous-mêmes nous sommes appelés à, par notre prière, par notre mort à nous-mêmes, hein, c'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, le baptême, nous sommes morts, enfouis avec le Christ, baptisés dans le Christ pour ressusciter avec lui. Ça veut dire que nous devons renoncer à des stratégies bien humaines pour solutionner des problèmes et nous tourner par la prière, et nous tourner vers la prière et vers l'amour pour changer non pas nos frères de l'extérieur, mais dans le cœur. Et ça, seul Jésus peut le faire. Et nous sommes là pour, nous sommes là pour appuyer ça par la prière et par notre amour, qui lui-même est nourri par Jésus. De même, dans nos propres vies, nous devons faire confiance, avoir de la patience par rapport à nos défauts et nous pardonner à nous-mêmes en faisant confiance à la miséricorde du Seigneur qui, malgré nos chutes, va nous relever. Eh bien, cette stratégie, c'est celle de Jésus-même, c'est ce Paul, hein, ici, qui va secouer le serpent et le mettre dans le feu. Donc, il faut vraiment nous tourner vers cette stratégie de patience, d'amour et de prière, plutôt que de nous laisser arrêter aux apparences, parce qu'effectivement, pendant un certain temps, il y a un temps de latence où les apparences semblent nous dire que notre foi est bien dérisoire, notre foi dans la puissance de la prière et de l'amour. Et puis, c'est aussi une manière, ce texte nous montre que cette vie, eh bien, trop souvent nous avons l'impression que ce monde va à sa perte ou que telle ou telle personne va à sa perte et que ce monde invisible, quand parfois nous prions pour des personnes et puis elles meurent, ou nous voyons des gens qui meurent, ou nous disons ça ne servit à rien, mais cette vie, nous enfantons cette vie, nous ensemençons des germes de vie par notre prière et notre simple présence de chrétiens. Nous sommes des portes ouvertes à l'action de la grâce du Christ. Comme Paul, il s'est une porte ouverte à l'action du Christ, cette île de barbares, de Malte. Eh bien, sachant que nous sommes, que ce monde, que cette vie est une antichambre, que même si cette vie paraît gâchée chez certaines personnes, eh bien, si nous avons prié pour elle, eh bien, cette vie était ensemencée, qui va permettre à cette personne de l'autre côté, eh bien, d'avoir un cœur plus ouvert à la venue du Christ quand ils vont le voir face à face. Rien n'est perdu. Toutes nos prières ont servi. Tous nos gestes de charité ont servi, que ce soit dans cette vie ou pour l'autre. On ne peut pas aussi s'empêcher ici de voir une espèce de parabole de ce qu'est la descente de Jésus aux enfers, qu'on dit dans notre credo, qui est une reprise de la première épître de Pierre au chapitre 3. On dit que Jésus est descendu aux enfers. Là, vous avez ce Jésus qui descend dans l'île de Malte, dans ce froid, hein, symbolisé par Paul, et qui va jusqu'à terrasser le serpent. Et ces gens sont là et ils l'attendent à bras ouverts, ce Jésus. Ils ont besoin de lui. C'est ce Jésus qui descend aux enfers, libérer les morts après sa résurrection, pendant son séjour au tombeau. Et je vous ferai remarquer que c'est pareil. Quand nous prions pour des gens, nous avons l'impression qu'ils n'ont pas besoin de Dieu ou qu'ils sont fermés. Mais regardez ces gens de l'île de Malte. C'est un petit peu toute cette vie intérieure qui n'attend qu'une libération du Christ. Les gens sont plus ouverts qu'il n'y paraît en apparence à cette action du Christ. Et nous-mêmes, nous avons l'impression que rien ne viendra à bout de tel ou tel défaut, mais soyons convaincus que nous sommes tous, que en nous-mêmes il y a ces forces vives pour allumer un grand feu autour duquel nous accueillons le Christ et ses disciples. Comme nos frères, même si les apparences sont trompeuses, sachons que il y a toujours en nos frères une place d'accueil pour notre prière, pour cette semence de vie que nous ensemençons par notre prière et notre action. Pour nos frères. Et d'ailleurs, la suite du texte le confirme. Près de cet endroit, donc là où le miracle est arrivé avec Paul, autour du feu, se trouvait la propriété du principal personnage de l'île, qui s'appelait Publius. Celui-ci nous reçut aimablement et nous logea pendant 3 jours. Le père de Publius était au lit parce qu'il avait de la fièvre, et de la dysenterie. Paul alla le voir, pria, posa les mains sur lui et le guérit. Après cela, les autres malades de l'île vinrent aussi et furent guéris. Ils nous montrèrent toutes sortes de marques de respect, et au moment où nous nous embarquions, ils nous fournirent tout ce qui était nécessaire pour notre voyage. Nous avons ici aussi une allégorie. Publius, c'est d'abord dans un premier lieu, cette humanité qui va s'ouvrir à l'incarnation, à la crucifixion et à la résurrection du Christ. C'est l'Église. En Publius, nous avons l'Église. Et c'est très important. Regardez le rôle de l'Église en ce monde. C'est ce que le Vatican II disait. L'Église, elle est sacrement, les signes. L'Église accueille le Christ, accueille a priori cet échec. 3 jours, il est mort, ressuscité, il n'y a que quelques témoins qui l'ont vu, la plupart des gens, eux, ils ne voient que la croix. Donc, on accueille, l'Église se laisse d'abord guérir, ce père frappé de dysenterie et de fièvre, l'Église reconnaît son péché, elle se laisse guérir dans ses racines, c'est le père, ici symbolisé, dans ses racines par Jésus. Et puis, parce qu'elle est guérie, parce qu'elle est transformée, d'autres viennent faire guérir leurs blessures par Paul, qui est ici une figure du Christ. Donc l'Église, par son comportement, doit amener des gens au Christ. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est pas toujours le cas. Ben, prions pour notre Église, et l'Église c'est aussi nous, pour que nous soyons vraiment des témoins à l'image de Paul, parce que nous-mêmes, nous sommes ses Publius. Nous accueillons, nous prenons au sérieux la parole de Dieu et la prière. Donc par notre prière, etc., eh bien nous allons jusqu'aux racines dans le cœur de nos frères, jusque dans leur inconscient, nous semons cette vie en eux, et alors tout ce qui, tout le mal, tous les obstacles qu'il y a dans le cœur de nos frères viennent se faire guérir par ce Paul, grâce à nous, Publius, qui avons ouvert les portes des cœurs de nos frères, c'est leur maison, par notre prière. Et alors, eh bien, ils vont se tourner vers le Christ. Évidemment, il y a un temps de latence qu'on va voir dans le texte après. C'est aussi nous-mêmes. Nous avons tous en nous, Publius, soyons le plus ouverts possible à l'action du Christ, pour qu'il guérisse jusque dans nos racines. Nous sommes parfois ignorants de la profondeur de notre péché. Laissons faire le Christ. Et alors, vous allez voir que tous nos problèmes, un à un, vont finir par être résolus et notre vie va s'unifier. Vous voyez, c'est les autres malades qui arrivent. Il faut en être conscient. Il faut vraiment tout remettre au Christ, dans l'abandon, que ce soit pour nous ou pour nos frères quand on intercède pour eux. Et Publius, c'est aussi un peu, si on revient à l'image d'Église, c'est dans ce monde visible, c'est cette porte que nous offrons à l'action de l'invisible du Christ pour que justement, eh bien, ce monde visible se transforme, comme le dit Romains 8, dans les douleurs de l'enfantement pour accueillir la fin des temps. C'est aussi Publius, c'est aussi nous, comment dire, nous semons, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la vie de nos frères, des germes de vie éternelle qui vont trouver leur plein épanouissement quand ils vont se retrouver face au Christ, s'ils ne l'ont pas rencontré avant. Soyons donc comme Publius, ouvrons nos portes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, une fois que ce monde est unifié, ce monde intérieur, ou que les gens vraiment se sont laissés guérir par le Christ, ils fournissent ce qui est nécessaire pour le voyage de Paul, allégorie du Christ, pour qu'il aille à Rome, dans Rome qui est ici l'aboutissement des Actes des Apôtres. L'Église est le relais du Christ. L'Église, c'est celle qui va donner du carburant au Christ, si j'ose dire, pour qu'il continue à s'incarner dans ce monde visible, pour que petit à petit il se transforme. C'est nous-mêmes qui donnons qui ensemençons le monde visible de nos frères pour qu'ils trouvent son plein épanouissement après leur mort. C'est aussi nous-mêmes qui ensemençons par nos prières, par nos actes de charité, toute cette vie intérieure, tout ce carburant que nous donnons à l'action de la grâce du Christ dans le cœur de nos frères et dans nos cœurs, à nous. Alors, ensuite, le texte continue. Au bout de 3 mois, nous sommes partis sur un bateau d'Alexandrie appelé les Dieux Jumeaux, qui avait passé l'hiver dans l'île. Alors, si on fait le lien avec ce que je viens de dire, on voit ce temps de latence, 3 mois, 3 jours, c'est dans le tombeau, Il faut un temps de latence. Jésus a mis 3 jours pour descendre aux enfers et pour prêcher. Il faut un temps de latence pour que justement, vous voyez tout ce qui s'est passé dans l'île de Malte, nous sommes comme, si on prend par exemple, nous sommes comme incarnés par notre prière, par nos actes de charité. Nous sommes allés semer cette graine dans l'inconscient de nos frères, dans leur cœur ou dans notre propre cœur. Mais il faut du temps. Il faut un espèce d'hiver qui passe pour que petit à petit le vent se mette à souffler et que nous puissions aller à Rome, que nos frères puissent aller à Rome. Donc, courage. Il y a comme un hiver, quand des fois nous prions pour nos frères ou pour nous-mêmes, quand nous voyons ce monde, rien ne semble bouger. C'est un hiver, mais souvenez-vous de ce qu'on vient de lire dans l'île de Malte, tout ce qui s'est déjà passé. Ce Publius qui est déjà là, hein, qui est cette ouverture au Christ, que ce soit dans nos vies, celle de nos frères, dans ce monde. Il est là. Et même s'il y a un long hiver, eh bien, les choses se passent en profondeur. Et, comment dire, ce qui va permettre à Paul d'aller à Rome, c'est d'abord un bateau d'Alexandrie. Alexandrie vient d'Alexandre, qui veut dire qui aime les hommes. L'amour du Père est carburant par excellence, c'est notre garantie. Le Père aime. Donc, le Père a patience, le Père prend patience, le Père a tout sous contrôle, c'est parce qu'il aime qu'il agit avec autant de douceur. Et le Père utilise même les moyens les plus loin de ce qui peut être la foi, les dieux jumeaux, c'est païen. Le Père utilise tout, c'est pas parce qu'en apparence les choses semblent ne pas aller comme on veut, que en fait tout est perdu, bien au contraire. Laissons faire le Seigneur, les choses évoluent comme lui le veut, c'est comme la cananéenne en Marc, je crois chapitre 7, les miettes. Quand nous prions, nous ce que Dieu nous demande de faire, c'est de prier d'aimer nos frères, nourris par justement l'Esprit Saint qui nous aide à aimer aussi nos frères, et ne nous occupons pas du comment et du quand. Et ici, après, on a aussi comme un remake, si vous voulez, c'est un prolongement du récit d'avant, mais c'est aussi une répétition. Vous avez donc ce long hiver, et puis après, donc des choses qui se passent dans l'intérieur, dans le sous-jacent. Puis après, on vous dit, nous sommes arrivés à la ville de Syracuse, nous sommes restés 3 jours. Syracuse veut dire, cette ville veut dire violence, 3 jours, violence, passion, tombeau. On a de nouveau une réactualisation constante de cette passion du Christ, hein, qui est ce qui va sauver notre humanité. Je reviens à l'hiver. Vous avez, le Christ est mort et il a dit qu'il reviendrait. Ça fait 2000 ans. C'est un long hiver, certes, mais les choses bougent en l'intérieur. Et quand elles seront mûres, et c'est pas à nous qu'il appartient de le savoir, c'est ce que dit Jésus. Seul le Père le sait. Eh bien, les choses vont se précipiter comme vous allez voir dans la fin de ce texte. Donc, c'est pas parce que le Christ tarde à revenir que rien ne se passe. Ce monde évolue, ce monde va vers le Christ. Le Christ sait ce qu'il fait. De même, quand nous prions pour nos frères ou pour nous-mêmes, c'est pas parce que les choses en apparence ne semblent pas bouger pendant un certain temps que rien ne se passe. Voyez, ces 3 jours Syracuse, il y a une opposition, une violence, les apparences semblent contraires. 3 jours, souvenez-vous, au bout de 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? La résurrection. Alors, de là, nous avons suivi la côte pour atteindre Reggio. Le lendemain, le vent du sud se mit à souffler. Nous sommes parvenus en 2 jours à Pouzol. Vous voyez, les choses se précipitent. Et c'est ce qui se passera à la fin des temps. Et c'est ce qui se passe quand tout d'un coup nos frères semblent tout d'un coup s'ouvrir au Christ alors que nous n'y nous y attendions plus, malgré nos prières et nos gestes de charité, notre évangélisation, ou nous-mêmes, malgré des défauts qui semblaient tellement tenaces. Et des fois, les choses se débloquent très vite, en 2 jours, parce qu'enfin, l'Esprit Saint, le vent du sud, a soufflé. Hein, on va du nord au sud, on va du sud au nord, hein, dans ce récit. Donc finalement, on va vers le haut, hein, vous voyez, etc. Et c'est pareil, la mort, des gens nous semblent, on a prié pour eux, et puis ils sont morts, et on se dit, ben ça ne servait à rien, mais non, la mort est comme un accélérateur, c'est ce vent du sud aussi qui semble souffler. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs niveaux, l'interprétation allégorique qui nous rappelle Christ qui reviendra à la fin des temps, ou cette crucifixion et cette résurrection. Puis vous avez l'interprétation anagogique aussi sur la fin des temps, ou cette mort qui va être comme un accélérateur, et puis cette interprétation tropologique centrée sur la vie intérieure, où les choses ne semblent pas bouger, mais tout d'un coup ça se débloque parce que, à l'intérieur, eh bien ce long hiver est passé, les choses ont mûri. Et dans cette vie, nous avons trouvé des frères chrétiens, qui nous demandèrent de passer une semaine avec eux, et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Le but est enfin atteint, par ce vent du sud, après ce long hiver, par par le bateau qui veut dire l'amour des hommes, même si c'est un bateau qui s'appelle Dieu jumeau, vous voyez un petit peu tout ce qui se met en place. Et pouzzole veut dire aussi rempli de puits. Et dans la tradition des pères de l'Église, les puits, c'est la prière et l'écriture. Et vous voyez ici aussi ce qui va aider les choses à mûrir, ce qui va aider aussi, si j'ose dire, au retour du Christ, qui va faire que l'Église va ensemencer des germes de l'invisible, de l'amour de Dieu, c'est son attachement à l'écriture, des puits, donc il faut creuser le sens de l'écriture, c'est ça aussi qui va nous nourrir dans nos temps de prière, qui va faire que nous aurons un regard qui va être de plus en plus priant pour nos frères et nous-mêmes, au-delà des apparences de ces hivers qui semblent interminables, et qui, bien loin de nous décourager, ben nous allons persévérer, et nous allons devenir comme Paul, une arme puissante pour le salut de nos frères. Eh bien, il faut aller pour passer des jours à Pouzzole, à creuser les Écritures, à prier, en compagnie des frères, qui ici symbolisent la tradition. Tout ce que les pères d'Église, tout ce que l'Église, et encore aujourd'hui, actualise de la parole de Dieu. Et voilà. Voyez ici, tout ça, c'est ce qui va faire que, enfin, le Christ va arriver à Rome, nos frères vont enfin se tourner vers Dieu, nous allons vaincre tel ou tel péché, nous allons rencontrer le Christ de l'autre côté, le monde va s'ouvrir à Dieu, c'est la fin des temps, vous voyez, sur plusieurs niveaux. Si je récapitule, vous avez d'abord cette île de Malte, cette espèce d'incarnation, ou alors nous-mêmes, nous, cette espèce d'intercession, ou alors l'incarnation du Christ symbolisée, où l'Église aussi est comme une incarnation, un prolongement du Christ. Les choses où il y a Publius qui est là, tout se passe dans l'intérieur, puis petit à petit les gens guérissent, ils fournissent du carburant. Voyez, dans la vie intérieure, petit à petit, les gens s'ouvrent de plus en plus. Où c'est l'Église qui va ramener des gens à Dieu, qui est par sa prière et son comportement est comme un carburant. Puis vous avez donc ce long hiver, et puis Dieu agit, hein, malgré les apparences, les Syracuse, les dieux jumeaux. Et puis, enfin, le temps s'accélère, le vent du sud va souffler. Grâce à quoi? Bien aussi à Pouzzole et aux frères qui demandent à Paul et à ses collaborateurs de venir chez eux. Et ils vont enfin pouvoir arriver à Rome. Voilà, j'espère vous avoir aidé, hein. On va essayer de résumer un peu tout ça dans la prière. Donc, je vous propose maintenant de prier, si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire votre cette prière. Seigneur, fais de nous ces saints Paul, ces relais, où nous n'hésitons pas à aller en profondeur dans le cœur de nos frères par notre prière et notre amour, en ne désespérant jamais. De même, Seigneur, aide-nous à nous-mêmes, à travailler en profondeur notre terre, la terre de notre cœur, par ces temps de prière, par ces temps d'abandon que nous te confions, et ces temps d'abandon aussi qui vont éclairer les efforts que nous avons à faire pour accompagner justement cette prière que nous faisons pour nos frères et pour nous-mêmes. Oui, Seigneur, nous te remercions aussi parce que tu t'es incarné, tu es venu et toi seul peux vaincre ce serpent. Eh bien, apprends-nous, Seigneur, que il n'y a pas d'autre Dieu que toi, que toutes nos actions, tout trouve un sens, que parce que c'est toi qui germe, c'est toi qui travaille, c'est ta grâce. Et Seigneur, donne-nous du courage en sachant qu'il y a en chacun de nous, en chacun de nos frères, un Publius, qu'il y a Publius dans ce monde, et que l'Église elle-même est Publius, et que nous avons donc une mission de persévérance et non de découragement. Oui, apprends-nous que eh bien, donc, ces longs hivers, eh bien, il se passe des choses avec ces Publius, qu'il faut un temps de latence, mais après le temps s'accélère. Et aide-nous vraiment à accélérer ce temps par notre méditation des Écritures, et nos temps de prière, et aussi notre approfondissement de la tradition. Amen. Eh bien, j'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes. Free audio post-production by Alphonic.com.